Vous écoutez
RMC.
RMC, midi 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC. J'espère que vous passez d'excellentes vacances. J'espère qu'il fait beau, que vous êtes en famille ou entre amis. Nous, en tout cas, on est ravis de vous accompagner durant ces 3 heures dans ce best-of d'Estelle Midi, avec au programme de ce vendredi 12 août, téléphone au volant, incivilité, les Français conduisent-ils de plus en plus mal? Parité dans les noms de rue, faut-il une égalité homme-femme? Et puis le pape regrette que les animaux de compagnie remplacent parfois les enfants. Donne-t-on trop de place aux animaux? Le best-of d'Estelle Midi, c'est parti.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser au baromètre du jour dans Estelle Midi. C'est celui de la Fondation Vinci Autoroute qui nous révèle ce matin que nos comportements au volant se dégradent. Téléphone, klaxon, injures, doublement par la droite. Les mauvais élèves sont clairement les conducteurs d'Île-de-France. Mais attention Rémi, car ils sont talonnés désormais par des automobilistes de 2 autres régions.
Ouais, talonnés de près par les automobilistes habitants en Auvergne-Rhône-Alpes et par ceux résidant en région Occitanie. Dans le détail, les franciliens s'illustrent dans certains comportements. C'est le cas quand il s'agit par exemple de coller délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve.
Je déteste.
Qui est extrêmement dangereux.
Mais oui.
Mais aussi doubler par la droite, spécialité francilienne, ou sortir de sa voiture pour en découdre verbalement ou physiquement avec un autre automobiliste qu'ils estiment responsable d'incivilité. En Auvergne-Rhône-Alpes, en revanche, là, autre spécialité, on est champion dans le domaine des injures et des noms d'oiseaux. Les conducteurs d'Occitanie décrochent la première place pour les coups de klaxon injustifiés. Le plus surprenant, quand on observe cette étude, en fait, c'est que c'est toujours la faute de l'autre. 97% de ces mêmes automobilistes interrogés donc dans cette étude estiment en effet que eux conduisent plutôt bien.
Ben oui.
Enfin,
moi c'est mon cas.
À peu près. Hein. 2/3 des sondés reconnaissent tout de même, quand on les pousse un petit peu, bon, qu'il leur arrive d'injurier les autres. Près des 3/4 admettent utiliser, et là c'est dramatique aussi, hein, leur téléphone au volant. Enfin, 1/5 de ces automobilistes va même jusqu'à descendre de son véhicule pour s'expliquer en face à face.
Alors, est-ce que nous conduisons de plus en plus mal en France? C'est la question que nous vous posons. Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau.
J'ai envie de me faire l'avocat des automobilistes franciliens. Ils ont raison de s'énerver quand même. Alors, entendons-nous bien. L'énervement, pour moi, c'est quelques insultes derrière le volant où je peste.
Mais ça ne gêne
syndicat.
Pas. Ça ne gêne personne.
Non, tout à fait. Les embouteillages, la mairie de Paris nous facilite pas la vie, et donc le fait que c'est un espèce, traffic jam, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'espèce de glu dans lequel on est quand on conduit dans Paris, c'est très énervant. Je rajoute à ça que les incivilités ne sont pas forcément celles des automobilistes. Je suis effaré du nombre de cyclistes qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois,
oui, c'est
et au-dessus
Rondeau,
du code de la route,
témoigné, je suis
et qui font n'importe quoi,
oui. Sous prétexte.
Et donc ça aussi, c'est insupportable. Donc voilà, je tempère en disant, j'explique un petit peu la mauvaise humeur. Évidemment, faut pas descendre de son véhicule pour insulter les gens. Évidemment, faut pas coller. Évidemment, faut pas doubler sur la droite. Encore que de temps en temps sur l'autoroute, il y a des gens qui s'estiment être les justiciers de la route, qui sont à 128 km/h sur la bande d'arrêt, sur la voie de gauche, et qui empêchent tous les gens d'aller un peu plus vite.
C'est trop dangereux. Ça, c'est moi, mais parce que je préfère être à gauche.
Dernière chose, je voudrais juste apporter un témoignage personnel. Depuis que je conduis un véhicule électrique, je suis beaucoup plus zen dans la conduite pour deux raisons. D'abord, parce que dès qu'on dépasse certaines vitesses, on use beaucoup la batterie, donc on fait très attention. Donc on est très en dessous des limitations. Ça, c'est la première chose. On est beaucoup plus fluide dans la conduite parce qu'il y a un frein moteur important. Et comme on est silencieux en ville, on fait très attention aux piétons et aux gens parce qu'ils ne nous entendent pas. Donc, la véhicule électrique est un élément de douceur,
un pacificateur.
Vous savez qu'il y a un sondage qui est paru là-dessus, et effectivement, les conducteurs de voitures électriques sont beaucoup plus zen que les autres. Mais il y a peut-être aussi sur le fait qu'on conduise peut-être plus mal. Il y a peut-être une explication. Pierre Rondeau, c'est la boîte de vitesse électrique et automatique, pardon, parce que avant, vous n'avez pas de voiture, je vais poser la question. Emmanuel, je tourne vers vous.
L'idée. Je vais pas témoigner.
Non, je pense que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je vais me tourner vers Emmanuel. Non, mais avant, il y avait des boîtes manuelles avec des rapports, etc. Il fallait faire hyper attention. Moi, j'ai une boîte automatique et je vois bien que mon rapport à la voiture a changé, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vos pieds sont moins occupés.
Vous avez le temps de penser à autre chose.
Vos mains aussi. Oui. En plus, il y a plein de trucs embarqués. Notre œil est sursollicité par notre tableau de bord, ce qui n'était pas le cas avant, quoi.
C'est marrant parce que moi, j'ai réfléchi à passer et j'ai préféré rester au manuel. Justement, ce que je craignais, ce que tu es en train de dire. Je tiens quand même à dire, en tant que région la moins touchée par ce sondage, c'est les Pays de la Loire, la Normandie et la Bourgogne qui sont les plus aimables dans leurs relations.
Mais vous n'avez pas de grandes villes. Enfin, vous en avez moins,
je veux dire. Alors, on pétard. Va dire à Dijon et à Besançon que c'est pas des grandes
villes. Non, mais Dijon et Besançon, ce sont des villes moyennes. Enfin, c'est pas des métropoles.
C'est pas ça. Je crois que c'est pas ça le problème.
Il n'y a pas d'embouteillage, vous voyez ce que je veux dire.
Il n'y a pas des tonnes d'embouteillage, on va pas se mentir. Mais cela dit, honnêtement, quand tu arrives d'ailleurs que de Paris, et que tu arrives à Paris avec ta voiture, ce que franchement t'as pas pu faire autrement, parce que je t'assure que quand t'arrives de province, tu viens pas avec ta voiture à Paris, parce que vous nous faites crever de trouille, les Franciliens. Vous conduisez pas comme les autres, hein. Et Dieu sait que je connais bien Lyon, et que Lyon s'est beaucoup dégradé à ce niveau-là.
C'est pas Rome non plus, hein.
Alors, ouais, mais Rome, tu vois, les Italiens quand ils klaxonnent,
les routes sont trop petites.
Les Italiens quand ils klaxonnent, c'est sympathique. C'est juste pour te dire, pousse-moi ma poulette. Oui, mais c'est pas l'agressivité des Franciliens. Pardon. Moi, je crève de trouille à Paris avec ma voiture. J'ai conduit à Los Angeles, t'as des autoroutes à 11 voix, et ben les gens sont plus respectueux.
Bah évidemment, il y a
du monde à Los Angeles, t'imagines, il y a un monde de dingue, mais c'est beaucoup plus respectueux. À Paris, je sais pas ce que vous avez, vous êtes stressé, faut changer de ville.
On n'arrive pas à circuler.
Quelle horreur. Si on avait 11 voix sur le périph, le problème serait réglé.
Excusez-moi, mais je pense, parce que je vais apporter mon témoignage, mais de cycliste, et je reprends ce que dit Thierry, et tu as raison Thierry, les cyclistes, la majorité ne respectent pas le code de la route. Il y a, en tout cas, pour ce qui concerne l'Île-de-France et précisément Paris, il y a aussi un côté culturel. Le Parisien est ronchon. Le Parisien est chiant. Le Parisien est prétentieux. Je peux témoigner, je le suis. Et moi, à vélo, je suis.
Vous êtes banlieusard aujourd'hui, je vous le rappelle.
Merci. Oui, les Franciliens, c'est les mêmes.
Bref, je suis Francilien, mais bref, merci Estelle de me rappeler ce triste fait.
Et tu insultes derrière ton guidon?
Totalement. Ah, mais j'ai encore failli me battre.
Enfin, moi, j'insulte derrière mon volant. Hein.
Thierry, oui. J'ai encore failli me battre pas plus tard qu'hier où une voiture il y avait un feu, je suis passé, elle voulait tourner à droite, donc on a pilé. Et là, il m'a insulté, francilien. Bah, j'ai dit, OK, vas-y, sors. Parce que moi, j'étais prêt, je me suis posé dans la voiture. Sors, qu'est-ce que tu m'as dit? Eh ben, il n'est pas parti. Enfin, il est parti parce que c'était une.
Il était baraqué?
En fait, finalement, qu'il soit sorti ou pas, peu importe, c'est lui qui est parti. Donc, moi, j'y vais. Hein. Moi, si
vous voulez. Moi, j'y vais. Mais c'est terrible.
Côté culturel, le dernier accident que j'ai eu à vélo, c'était face à un scooter qui, effectivement, a doublé un bus de la droite, qui était clairement en tort. Et là, clairement en tort, il me défonce ma roue. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'insulte parce que j'ai eu la malchance de casser son rétroviseur. Donc il est clairement en tort, mais il m'insulte. Et bah effectivement, on est venu aux mains, on s'est battu. Mais c'est que
ah oui, quand même.
Moi, je veux pas lui
c'est lui qui est là.
J'ai peur.
Je pense qu'il y a le côté, alors peut-être que je peux expliquer par les embouteillages, par l'esprit parisien, l'esprit ronchon, mais culturellement, je pense pouvoir représenter ça. Le Parisien est chiant.
Pas que. Ouais.
Alors, on est avec une conductrice de banlieue parisienne parce qu'elle nous appelle d'Evry. Dans l'Essonne, c'est Lola qui est éducatrice pour ados. Bonjour Lola.
Bonjour.
Eh ben merci d'être avec nous sur RMC. Lola, est-ce que vous avez l'impression de bien conduire?
Moi, je conduis bien, mais après oui, je suis un chat noir puisque j'attire les accidents.
Oh d'accord.
Ça va faire trois accidents que j'ai en un an et demi.
Ah, c'est beaucoup.
Ah oui, quand même.
Oui, mais c'est pas ma faute.
Vous êtes
chez les gens, ça fait trois fois en un an et demi que je me fais rentrer dedans. Ça fait une fois par an, là, ça y est, du coup, c'était décembre 2020, juillet 2021, et là, mars 2022. Ça fait trois fois que je me fais rentrer dedans parce
vous
que les gens ne savent pas
souvent
conduire.
Parce que vous roulez trop lentement.
Mais non! La première fois, je me suis fait rentrer dedans parce que l'homme a voulu sortir de chez lui. Et oui. Ben, c'était là. Donc, il est rentré dedans, mais bon, c'est sa voiture qui a bien dégommé.
Bien morflé.
C'est ça. La deuxième, c'était un couple de personnes âgées qui a voulu aller sortir carrément de la nationale, du coup. Et on était sur une voie à trois. Enfin, on était sur une triple voie. Et ils étaient sur la voie de gauche, extrême gauche. Et j'étais au milieu et ils ont voulu sortir. Et la personne, pour l'anecdote, hein, la femme, m'a dit qu'ils avaient mis les warnings et que j'aurais dû comprendre qu'ils étaient perdus et que c'était ma faute.
Ben oui, bien sûr.
Et la troisième fois, la femme a grillé le feu rouge.
Là,
je suis un vrai point noir.
Si je comprends bien, vous conduisez bien, mais il ne faut pas vous croiser sur la route.
C'est ça. Moi, je pense que c'est les accidents qui viennent à moi. Je pense que c'est assez particulier. Mais par contre, je voulais réagir à ce que disait Emmanuel. J'ai été en Creuse.
Ouais.
Et j'ai connu la civilité en Creuse, moi.
Mais parce qu'il n'y a personne, Lola.
Il y avait quand même des personnes, mais par contre, c'était quand même très sympa.
Deux tracteurs et deux Twingo.
Oui, les tracteurs, même on ne les klaxonnait pas. Mais quand je croisais des personnes, oui, littéralement, j'ai connu les klaxons par gentillesse. Vraiment, ils se saluaient en se faisant un petit klaxon de loin, comme ça, pour signaler qu'ils étaient là.
C'est parce qu'ils voient jamais de voiture, ils disent « Oh, super, une voiture !»
Non, ça, c'est des idées reçues de parigons finis.
Il y a d'autres
gens qui peuplent la France.
Je rigole, évidemment.
Non, mais de passer de l'Essonne à la Creuse, après, quand je suis revenue en Essonne, là, c'était très compliqué, hein.
Oui, c'est vrai que, évidemment, et vrai, il y a pas mal d'embouteillages. En plus, il y a l'A6 qui passe juste à côté, qui est embouteillée tous les dimanches. C'est une catastrophe. Merci beaucoup, Lola, en tout cas, pour votre témoignage. Vous nous avez bien fait marrer, en tout cas, dans Estelle Midi. On est avec Adam, qui appelle également de banlieue parisienne. Et alors, c'est très intéressant d'avoir son témoignage à Adam, parce qu'il est routier. Salut, Adam.
Bonjour, Estelle.
Eh ben, merci d'être avec nous, Adam. Alors, vous allez pouvoir évidemment nous renseigner, Adam, parce que vous êtes routier. Est-ce que vous avez vu les comportements des Français changer sur la route ?
Moi, je roule depuis 25 ans et en effet, j'ai vu une évolution. Surtout, j'ai travaillé 20 ans dans le sud de la France et là, depuis une quinzaine d'années, je suis en région parisienne. Mais Paris, pour moi, c'est le paroxysme.
Ben oui.
Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont trop stressés et ça se transmet à travers le volant. J'ai l'impression que la voiture, c'est un exutoire social. Mais en fait, je pense que c'est dû au fait qu'à Paris, 24 heures, c'est trop court pour avoir une vie complète entre l'activité physique, les activités culturelles, le travail, la famille. On n'a pas assez de temps. Donc, si quelqu'un nous fait perdre, si ce n'est 5 secondes sur la route, on va s'énerver contre lui. Parce qu'on veut aller à 100 à l'heure. Alors qu'en province, je ne dis pas qu'on s'emmerde, mais on a un peu plus le temps. On a un peu plus de temps libre, donc on prend un peu plus le temps de rouler, de vivre.
Mais vous avez raison, mais il y a un truc qui m'agace, mais alors au plus haut point, vous savez, vous êtes le dimanche, vous êtes à un feu, simplement, vous êtes cool, c'est le dimanche, tout va bien. Et là, le feu, il est à peine passé au vert, vous avez toujours un crétin derrière qui vous klaxonne et vous avez envie de dire, mais détends-toi, déstresse. Mais c'est dingue, en fait.
Il y a aussi ceux qui restent au feu et qui ne redémarrent pas.
Et alors, ça arrive.
On n'est pas là.
Oui, t'es en train de regarder son portable, alors évidemment. Je rigole, ça va.
Ça vous est jamais arrivé de. Moi, je rentrais de vacances, donc des bouchons au retour des Alpes, vacances d'hiver. Et on a une voiture qui est allée sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah non, et manque de bol, il y a eu un accident et les secours n'ont pas pu arriver. Et les gens sont décédés. Alors mais moi, ça m'a vaccinée, j'étais ado, ça m'a vaccinée à vie de ce genre de comportement. À vie.
Moi, j'ai vu, mais je ne sais pas, peut-être dans ma vie, peut-être 3-4 personnes qui allaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça n'arrive jamais.
Ah, si, moi, je vois
plein
souvent.
De fois, tu rigoles.
Je vois
plein
très souvent.
De fois.
Vous très souvent. Sur la 13, je le vois régulièrement.
Ah ben moi aussi, sur la 6, quand tu rigoles.
Parce qu'il y a une urgence ou des gens qui doivent.
Pas du tout. Des gens qui prennent pour éviter le bouchon. Bien sûr.
Vous voyez
je
ça aussi,
Adam ? Oui, moi je passe la grande partie de mon temps à rouler sur la 86. Et je pense qu'il n'y a pas d'autoroute plus cauchemardesque qu'en France.
Mais oui.
Il y a tout le temps des bouchons et les comportements ils sont très 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 mauvais. Et je ne vous cache pas que c'est difficile. Donc je me pose la question de savoir si je ne vais pas déménager ailleurs parce que
carrément.
De pire en pire.
Waouh.
Ah oui, carrément, c'est vrai. La 86 le matin, vous la prenez à partir de 7h, c'est un véritable enfer.
En Bourgogne.
Merci en tout cas, Adam, pour votre témoignage. Vous avez plein de messages, Rémi Barré, je crois.
Énormément de messages pour aller dans le sens de ce qu'on vient de se dire. Et c'est vrai que moi aussi, je suis passé de Paris. Après, j'ai vécu 20 ans à Paris et je suis reparti depuis quelques années en province. Le mot embouteillage a disparu de mon vocabulaire.
Il n'y a pas d'embouteillage dans le Nord ?
Non. Là où j'habite, non.
Vous habitez où ?
Et c'est sans commune mesure avec ce qu'on connaît à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, un embouteillage. Moi, quand j'ai un embouteillage dans le Nord, c'est parfois on met attention au ralentissement. Ça dure 5 minutes. 10 minutes. Je perds 10 minutes.
Ça dure plus longtemps.
À Paris-Île-de-France, on perd entre 1h, 1h30, voire 2h.
Moi, des fois, je suis sur l'autoroute et je vois que ça bouchonne et je. Non, mais j'ai honte. Je passe par la station service pour essayer de gratter des places.
Oh non,
c'est terrible.
Ah, c'est ridicule. Je vous
jure. Allez, c'était
moyen de gagner 10 places. Et derrière, je force, mais alors je force pour rentrer sur la file de gauche, mais alors. C'est impossible de pas me laisser passer. Mais oui, j'ai honte. Mais oui, mais bon.
Gagner 10 voitures.
Mais oui, mais en fait, parce que je prends une voiture et je vais arriver avant elle. Vous voyez, genre je prends une voiture bleue et je la fixe. Vous voyez, c'est un peu ma target. Et donc,
c'est le repère.
C'est mon petit plaisir parce que je m'ennuie.
Et vous traitiez Pierre de
gros bleu. Ça n'a rien à voir.
Allez, un message de Séverine sur Direct Studio qui nous dit je suis une merveilleuse conductrice, Estelle, sauf à 8h30, midi, 13h30 et 17h quand je dois récupérer mes enfants dans deux écoles en même temps. mais à 5 km l'une de l'autre, là, il ne faut pas que ça traîne et il ne faut pas me chercher.
Non, mais alors, il y a un truc, c'est qu'avant, il n'y avait que les garçons qui étaient grossiers.
Mais oui, là, alors, mais, c'est terrible.
Là, je vois des filles, mais, et même des dames d'un certain âge, oui. mais qui sont d'une grossièreté.
Oui, oui, c'est terrible.
Elles
oui.
sortent des fois des noms que. Ouais. De ma vie, jamais.
Il y a une semaine, je me suis fait insulter par quelqu'un qui était sur une place électrique oui. et j'arrivais avec ma voiture électrique oui. et donc elle n'était pas électrique, donc je lui ai dit si elle pouvait partir.
Bien sûr.
Elle m'a dit, elle m'a insulté en espérant que je mourrais dans d'atroces souffrances, qu'elle avait oui. été une personne âgée, qu'elle avait trois cancers et que donc il fallait la laisser tranquille.
C'est vrai que si elle avait trois cancers, vous auriez pu lui laisser la place.
Aussi, sens interdit, enfin une voiture en sens interdit, c'était une mère de famille dans la voiture. Moi, j'arrive à vélo, toujours à vélo, hein, bien sûr. Elle roule en sens interdit. Et moi, j'arrive, je suis devant elle, mais elle me voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait un appel de phare, elle me demande de mettre sur le côté, elle ouvre sa fenêtre et elle m'insulte. c'est vous qui m'insultez.
Alors qu'avant, c'était que des hommes, et comme quoi.
Mère de famille.
La libération de la parole de la femme,
mais c'est bien. Moi, je suis voiture.
Il y avait sa petite fille derrière. Il y avait sa petite fille derrière, elle ouvre sa fenêtre et elle m'insulte. Voilà, quelle image.
On va écouter le témoignage de Cédric qui nous appelle, bah tiens, encore de banlieue parisienne, dites donc. Ça va, Cédric?
Très bien, Estelle, et vous?
Mais oui, super, Cédric est chauffeur de poids lourd. Cédric,
exactement.
Bah, vous conduisez bien, vous êtes chauffeur de poids lourd, a priori.
Alors moi, Estelle, il faut le dire déjà, je suis un passionné de la route. J'aime conduire. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui aiment faire des gâteaux, passionnés par la musique. Moi, c'est la conduite.
D'accord.
J'aime conduire. Et sauf que j'ai une conduite très dangereuse.
Ah non.
Je m'explique. Mais dangereuse quand je suis tout seul. Je m'explique exactement.
Enfin, vous connaissez la route. Hein.
Vous voyez, quand vous prenez la A1, vous quittez la Chapelle pour aller en direction de Lille.
Oui, je vois, c'est toujours embouteillé.
Le tunnel du Landy.
Mais quand oui, qui va au Stade 90, de France, ouais.
Exactement, 90, je le prends à 110 jusqu'au premier radar.
D'accord.
Pour okay. Par la 86, quand vous quittez Rungis pour aller soit du côté de Paris ou du côté banlieue Est, en fait, pour, si vous voulez, je vais vous donner une astuce pour gratter des places. Vous mettez sur la voie qui va au niveau de Paris. Et à la dernière minute, vous bifurquez pour rentrer pour récupérer la 4.
Là où c'est une ligne continue, donc.
Ouais, non, mais je ne bifurque pas. Ah, bah non, vous pouvez pas faire ça, Cédric. Non, mais c'est hors la loi. C'est illégal. Alors que c'est pas illégal de passer par la station service.
Ouais, mais la station service, c'est pas marrant. En fait, si vous voulez,
moi, ça m'amuse pas de franchir une ligne blanche, Cédric.
Mais moi, ça m'amuse et ça me fait gagner.
Ah non, Cédric. Ah non, vous pouvez pas dire ça. C'est hyper dangereux. Et puis, il y a des lois, elles sont pour tout le monde.
Non, mais non, par contre, ce que je fais, je ne roule pas sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Bah, il manquerait plus que ça, Cédric.
Ah non, mais parce qu'il y en a qui le font.
Bah, d'accord, non, mais c'est pas parce qu'il y en a qui le font que c'est bien.
Je vous avoue que je double par la droite. Je l'avoue.
Bon, ça,
faut pas que je vous croise sur la route, hein, Cédric, hein, ça va mal se passer.
Ça peut jamais arriver, Emmanuel. Des fois, t'es obligé.
Non, mais je vais vous dire pourquoi.
Ah oui. Bah oui.
Pourquoi je le fais? Parce que j'ai du mal avec les gens qui sont pas rapides. Moi, la route, il faut que ça y aille. Oui, c'est faut que ça. Après,
faut rester dans la mesure quand même.
Oui, et dans la légalité. Mais vous avez déjà pris beaucoup d'amendes et vous avez encore des points sur votre permis, Cédric?
Alors, pour tout vous dire, je viens de passer un stage il y a 3 mois.
Ah.
Et ça fait des années que j'ai pas réussi à arriver à 10 points.
Ah oui, d'accord.
Ça vous met pas du plomb dans la
tête. C'est quand même un problème, Cédric. En plus, vous êtes chauffeur de poids lourd si vous perdez votre permis.
Mais en fait, non, justement, en fait, c'est comme je vous l'expliquais, c'est une adrénaline. J'arrive pas à le maîtriser. C'est plus fort que moi.
Mais allez sur du jeu vidéo. Oui,
Cédric. Allez sur un circuit.
Non, Cédric, je pense que c'est autre chose. Vous allez aller voir votre médecin et vous allez lui demander si vous n'êtes pas TDAH. Parce que c'est souvent les gens qui sont souvent en stage, ce sont ces gens-là qui ont des troubles déficitaires de l'attention et hyperactivité. Et ça, vous devez absolument, et ce que vous racontez, c'est exactement ça. Vous devez absolument aller voir votre médecin pour en parler. Parce que là, vous mettez les autres en danger.
Merci, docteur Dancourt, vous êtes attendu.
Merci,
au bloc
3
pour une opération de l'appendicite. Merci beaucoup. Merci, Cédric, en tout cas, pour votre témoignage. Je crois pouvoir dire qu'on ne conduit pas très bien en France. Mais enfin, on a fait, en tout cas en banlieue parisienne, mais on a fait un sondage quand même sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Rémi, ça donne quoi?
Est-ce que le comportement des automobilistes s'est dégradé?
Oui.
C'est oui à 77%. C'est pas une vue d'esprit.
Bah oui.
Oui, mais ça ne m'étonne pas. Il y a eu énormément de témoignages également sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Là-dessus, tiens, je vous rappelle en parlant de l'appli RMC que vous pouvez bien sûr retrouver Estelle Midi en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC.
RMC, jusqu'à 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi. RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
on va tout de suite débattre autour de l'histoire du jour. Ça se passe à Garches, en banlieue parisienne. La ville a décidé de débaptiser deux rues qui portent le nom de deux hommes au passé antisémite au profit de deux femmes. Les habitants peuvent désormais voter pour choisir leur personnalité féminine préférée parmi plusieurs noms, Rémi.
Exactement, et tu l'as dit, en cause le passé de deux personnalités, donc la rue Marquis de Morès à Garches, Marquis de Morès, et la place Charles de Vos. Et ce qui est donc comprend, c'est leur passif, leur passé, celui de Charles de Vos, né en 1864, ancien maire de Garches, connu pour ses positions antisémites, et aussi le Marquis de Morès, né en 1858, militant colonialiste et cofondateur de la Ligue antisémitique, ça s'appelait comme ça à l'époque.
On se demande déjà pourquoi
de France.
Nom de rue.
Trop encombrant, la commune a donc décidé de changer les noms de cette rue et de cette place, mais aussi de les féminiser. D'autant qu'aucune artère de la ville de Garches ne porte aujourd'hui un nom de femme.
Ah bon ?
Une consultation citoyenne a donc été lancée sur le site internet de la mairie, tu l'as dit, afin de choisir entre 8 femmes. Simone Veil, Camille Claudel, Marie Curie, Lucie Aubrac, Blanche de Castille, Colette, Georges Sand et Marie Laurencin. Il y a le choix, et je crois que quel que soit le choix, ce sera un bon choix.
L'ambiguïté avec Georges Sand.
Oui, bon, à y regarder de plus près, le cas de Garches n'est pas si isolé et plusieurs autres communes ont entamé le même type de démarche. Et il y a de quoi faire quand on sait qu'aujourd'hui en France, à peine 5% des rues et 2% des boulevards et autres avenues sont baptisés au nom d'une femme.
Et je vous parle même pas des stations de métro. Alors, on s'est posé la question dans Estelle Midi, est-ce qu'il faudrait une égalité homme-femme dans les noms de rue au nom justement de l'égalité des sexes. Je vais commencer évidemment avec vous, Fatima. Je sens que le sujet vous plaît.
Oui, c'est sûr que cet état de fait, des noms de rue, des hommages qui sont faits, des statues, etc., nous donne une certaine perception de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'hommages à des hommes que parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'ont fait ces femmes pendant tous ces siècles? Est-ce qu'elles étaient dans leur coin en train de faire du tricot?
On a fait la cuisine.
Voilà. Alors qu'il faut savoir que vraiment, quand on étudie l'histoire des femmes, et même de tout temps, elles ont été écartées, par exemple, des politiques, les femmes ont toujours désobéi et fait de la politique.
Oui, mais on les connaît moins. Elles sont moins célèbres.
Exactement. Ce qui me gêne limite dans cette liste, c'est qu'on remet toujours les mêmes noms de femmes qu'on connaît déjà. Et en fait, les femmes, par exemple, pendant la Révolution française, même quand on leur a interdit de faire des clubs, elles faisaient des clubs de femmes pour réfléchir à la Révolution. Elles créaient des journaux de femmes dédiés sur la question du droit de se battre. Pendant la Commune de Paris, par exemple, elles étaient interdites d'aller à la Garde nationale fédérée. Elles se battaient quand même.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et pendant la Révolution française, elles demandaient, elles déposaient des pétitions pour pouvoir avoir le droit de se battre, elles aussi. Et je voudrais vraiment aussi aller vers un dernier exemple, ce sont les femmes noires. Par exemple, Claire, la grande marronne, les marronnes, ce sont les esclaves qui...
Non, mais là, on va partir à l'histoire des femmes.
Je vais être très rapide, mais on a besoin parfois de les citer parce qu'on ne les entend jamais.
D'accord.
Donc les marronnes qui fuyaient leurs maîtres et qui créaient des communautés de fugitifs et de libérés, donc qui a été tuée quand elle a été retrouvée avec son mari et devant ses enfants, ou encore Solitude en Guadeloupe, là aussi, qui luttait contre le rétablissement de l'esclavage, et on l'a tuée juste après qu'elle ait accouché à 30 ans parce qu'il fallait récupérer le bébé esclave.
Le débat.
Donc tout ça pour dire que c'est vous dire à quel point il y a un double mérite des femmes et notamment des femmes noires qui ont existé dans l'histoire.
Mais ça, on est d'accord maintenant, le débat. Les rues, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'égalité ou pas?
Je peux terminer
mais
rapidement.
Mais on sait que les femmes sont méritantes.
Et juste vraiment la dernière idée, c'est qu'on a souvent l'impression que dans l'histoire, les femmes et les noirs, ils acceptaient l'hégémonie de la domination, que c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'on fait avec les rues?
Par rapport à ce double mérite, je pense que progressivement, il va falloir effectivement débaptiser des rues et les rebaptiser avec les moitiés de l'histoire qui ont été enterrées, on va dire. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une petite place ou une petite ruelle pour donner des noms de femmes, le truc, il est rikiki.
C'est déjà ça. Petites places et des petites ruelles qui sont aujourd'hui inaugurées.
La place de l'étoile
Il y a des musées qui sont créés auxquels on peut donner des noms de femmes. Alors moi, oui, mille fois oui, la République, la nation n'a pas assez honoré les femmes de notre histoire qui ont été invisibilisées. Tu vois, je le dis en une phrase et je suis d'accord avec toi. En revanche, je suis absolument contre le fait de débaptiser.
Ça dépend. Là, les deux qui ont été
je
débaptisés, c'est normal.
Je suis absolument contre le fait de débaptiser ou d'enlever des statues.
Même
parce que là, on rentre dans un autre débat fondamental qui est la contextualisation, c'est-à-dire l'éducation. Je suis partisan quand il y a des rues comme ça qui posent problème, qu'il y ait une plaque explicative pour dire que ce monsieur, il a eu cette rue parce qu'il a été maire de la ville, mais qu'en revanche, il a un passé antisémite, etc.
Mais tu l'enlèves. Pourquoi tu l'enlèves pas?
Oui, mais parce que c'est cette plaque qu'elle a été apposée là, à un moment donné. c'est qu'il y a un sens historique.
Exactement.
Ça parle de notre histoire.
Je voudrais juste terminer.
On a tranché, on a décidé.
Je voudrais juste terminer. Ça passe par l'éducation de notre histoire dans ce qu'elle a de plus formidable comme de plus sombre. On embrasse l'histoire, on la déconstruit pas. Et donc, on l'explique, on la contextualise. Parce que, ne serait-ce que pour savoir que ce type a été antisémite, moi je le connaissais pas. Si j'ai une plaque qui m'explique que ce mec, il a été maire d'Arras. C'est Arras.
Garches.
Ce type, il a été maire de Garches, il a eu une plaque, mais il était antisémite. Et ben, quand j'aurais lu la plaque, j'aurais au moins appris quelque chose.
Mais s'il ne mérite pas cette plaque, je suis désolée, on peut lui enlever. Il ne mérite pas cette plaque.
Encore une fois,
à un moment, il l'a mérité.
Bah, il l'a mérité, mais enfin, pour des mauvaises raisons.
Non, mais
c'est pas qu'il l'a mérité.
Surtout, ça parle de notre histoire. Si à ce moment-là, en cette année-là, je ne sais pas quelle année a été créée cette rue et qu'elle a été baptisée de ce nom-là, si cette année-là, on a choisi de baptiser de ce nom-là cette rue-là, ça parle de notre histoire.
Oui, mais c'est un moment de notre histoire. On ne savait pas qu'il était antisémite, Manon. C'est même des bassines.
Mais si on les enlève en deux générations, on aura oublié le fait que ce type était antisémite. S'il y a une plaque qui explique, on saura.
Voilà. Mais si tu enlèves la plaque, tu n'en parleras plus. Donc, c'est encore mieux.
Et donc, on parlera plus d'histoire.
Et juste,
Rémi,
s'il te plaît, juste écoute-moi une seule chose. L'histoire, à chaque fois, elle a été tranchée. C'est-à-dire qu'on raconte une version de l'histoire. Donc, c'est pas vrai qu'à un moment, sur cette planète, 90% des personnes actives étaient des hommes. C'est pas vrai. À chaque fois, il y a eu des choix politiques pour donner à avoir une certaine histoire.
Et ces choix politiques parlent de notre histoire.
Exactement.
Eh ben, alors, on racontera qu'en 2022, un jour, 2022 fera partie de l'histoire, il y a eu un choix politique pour faire ce rattrapage et ça parlera
et
de notre époque.
Des autres, on l'oubliera.
Alors, Robert Sebag, le grand sage de cette émission.
Non,
est-ce qu'il faut la parité homme-femme dans les rues?
Après la plaidoirie pro-domo de notre amie Fatima, bon, moi je me sens extrêmement difficile. Le contexte historique, il existait à l'époque. Parce que la France était antisémite, c'était avant la Shoah, c'était avant, et donc c'était quelque chose de courant, si vous voulez. Donc je peux me révolter, j'aurais des raisons de me révolter, mais je me remets dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, si vous voulez, l'antisémitisme, c'était quelque chose d'extrêmement répandu.
C'est vrai
que l'explication me paraît extrêmement importante de dire ça. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la question qui se pose, c'est nouvelle rue, place, musée, organisation, oui. Débaptisé, alors parité bien sûr. Débaptisé, je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'on va commencer par les rues, ça va être les statues, ça va être un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Après, alors d'un point de vue purement pragmatique, et je vais me rabaisser par rapport au débat de Fatima, les gens qui habitent ces rues, si vous voulez, il y a des problèmes, ils vont changer d'adresse avec tout ce que ça comporte, pardon.
Mais ça, les gens le disent.
Voilà, oui, mais d'accord, mais on va leur dire. Donc, peut-être qu'il y a quand on débaptise, il y a peut-être une prise en charge sur son permis de conduire, sur ses déclarations d'impôts. Bon, ça, c'est des choses, et les gens le disent.
Vous êtes sur le pratique. Vous êtes sur le pratique.
Non, je suis pas sur le pratique, j'essaye de voir.
Il y a très peu d'hôpitaux qui portent des noms de femmes.
Mais moi, oui, vous avez tout à fait raison. Mais je vais vous dire qu'il y a très peu de chefs de service qui sont femmes. Donc, la réalité, si vous voulez, elle existe aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. Mais il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut faire attention au retour de balancier si on va un petit peu trop loin.
Mais il faudrait pas tirer quand même checker à un moment tous les noms de rue. Voilà, on fait un petit check-up et puis voir quand même ceux qui posent problème et se dire on peut peut-être sur ces rues effectivement pour vous faire plaisir mettre une plaque explicative, mais aussi donner un nom de femme à côté, vous voyez, pour essayer d'arriver un peu à la parité. Oui.
Toutes les nouvelles rues, il faut qu'il y ait une parité absolue. Et donc plus qu'une parité pour rétablir, parce que je crois que c'est quelques pourcents seulement de monuments et de rues qui sont au nom des femmes, mais pas débaptiser. Je pense que en plus, si on débaptise, on va invisibiliser ce que disait Robert, c'est-à-dire qu'à une époque dans notre pays, l'antisémitisme avait pignon sur rue. On l'a combattu et c'est une bonne chose. On continue de le combattre, mais il faut montrer aux générations futures que ça a existé. Et donc, si ça a existé, ça peut revenir. Donc, il ne faut pas débaptiser, il faut contextualiser.
Non, mais si on ne débaptise pas, il n'y aura jamais, même dans 20 ans, on ne va jamais créer assez de nouvelles rues, de nouveaux boulevards, ça va rester vraiment très marginal. Or, pour moi, c'est déjà un geste politique de débaptiser. Ça rentrera dans l'histoire aussi d'une certaine manière. Il y a plein d'hommes qui ne méritent absolument pas, genre des propriétaires terriens, etc. Et de toute façon, on n'a pas mis toute l'humanité dans les rues. À un moment, il y a toujours eu des choix, on a arbitré. Donc, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème qu'à un moment, on efface un hommage à un homme. Et ben, les cours d'histoire et les livres sont là pour rappeler qu'ils sont.
Mais non, pas dans les livres d'histoire.
Si tu es antisémite, tu ne sauras plus qu'il y a eu d'antisémitisme.
Exactement. Et nous, on fait, ils ne seront pas dans les livres d'histoire.
Vous faites un visuel là sur l'une des actions de nous toutes. On fait tout le temps des recollages et on fait découvrir des nouveaux renoms.
Excuse-moi, je trouve que plus important de célébrer Valmy, qui a été une victoire de la liberté et des sans-culottes qui se sont battus avec des chaussures qui n'étaient même pas des chaussures contre l'envahisseur étranger en France, plutôt que Bell Hook, que je ne connais pas, mais qui mérite sans doute sa rue, mais pas le quai de Valmy.
Mais il y en a 30 000 quai de Valmy.
Pourquoi débaptiser le quai de Valmy?
Parce qu'il y a 30 000 Valmy, c'est-à-dire...
Non, il n'y a pas 30 000 Valmy, il y en a eu un qui a sauvé la République. Tu ne connais pas l'histoire.
Non, je ne parle pas des personnes.
Valmy, c'est un événement fondateur de notre République.
Je parle des rues. Il y a plusieurs rues qui portent le nom de Valmy.
Pas dans les mêmes communes. Pas dans la même commune.
Et à un moment, on a pris des choix.
Mais non, mais justement,
par exemple, Pétain.
On a notre droit aussi aux communes de choisir leur nom.
À un moment, il y a eu plein de boulevards Pétain. Et à un moment, on a fait un choix et on les a tous débaptisés.
Exactement. En fait, tu vas pas enlever De Gaulle parce qu'il y en a trop, par exemple. Ça paraît compliqué, quoi. Tu vois, enfin.
Il y en a quand même beaucoup.
Mais si chaque commune veut commémorer la mémoire de Charles de Gaulle, on ne va pas interdire aux communes parce que la voisine en a déjà une. Bah non, vous ne pourrez pas.
Si tu vas à chaque fois que sur la question de la volonté, tu ne feras jamais découvrir qu'est-ce qu'a été l'autre histoire, l'histoire qui a été piétinée et invisibilisée. Par exemple, quand tu dis qu'à un moment l'antisémitisme était hégémonique, ce n'est pas vrai. Au moment de l'esclavage, au moment de l'antisémitisme, il y a toujours eu des courants qui ont explicité,
écrit
des
lois qui se sont luttés pour expliquer l'histoire.
Exactement.
C'est ça. Et à un moment, effectivement, mais tu dis,
on embrasse toute l'histoire.
Tu dis, il a été esclavagiste, etc. Il a porté ce nom, la rue portait son nom à cause de ça. Mais évidemment, on l'a débaptisé. Et aujourd'hui, c'est le nom de Marie Curie, n'importe quoi. Mais tu gardes quand même ce premier nom parce qu'il faut, parce que ça fait partie de l'histoire, même si c'est une mauvaise histoire.
Qu'est-ce que tu entends par débaptiser alors?
Ben, en fait, c'est double baptisé.
C'est compliqué pour les facteurs.
Bon, écoute, j'ai
cette histoire de oh là là, on change d'adresse. Enfin, à chaque fois que j'ai déménagé, bah oui, je me suis tapé le petit moment d'administratif où il fallait changer mon adresse.
Mais là, tu changes d'adresse sans déménager. Donc, en fait.
Bah, oui, mais ça revient au même. Ce sera exactement les mêmes démarches.
Vu le phénomène d'ampleur que tu nous promets, il va y avoir beaucoup de changements d'adresse.
Oui, mais je pense que ça doit être graduel. On va petit à petit débaptiser et faire découvrir de nouveaux noms.
Petit à petit, donner des noms de nouvelles rues à des femmes et ça sera très bien.
Et là, il faut avoir l'égalité, en tout cas sur les nouvelles noms de rue, il faut avoir l'égalité au moins pour
ça ne sera même pas 5% de plus. On ne va pas à chaque fois sururbaniser.
C'est ça, petit à petit, Fatima.
Non, si tu te balades là dans Paris, si tu ne débaptises pas, tu n'auras que des noms.
Il faut que vous appreniez la patience. C'est très important, Fatima.
Ça fait quelques siècles quand même, là.
Exactement. Alors, on vous a posé... Ah, je suis désolée, Fatima, mais on a posé la question, bien sûr, sur Twitter. Faut-il une égalité homme-femme dans les noms de rue, Rémi Barré? Bon, bah, Fatima n'a pas réussi, malgré ses arguments, à convaincre.
C'est non, ouais, c'est non assez massif. C'est non à 72%.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi. RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Le dernier débat du jour, il est autour de la petite phrase du jour. Et c'est celle du pape François qui a regretté hier au Vatican que les animaux de compagnie prennent parfois la place des enfants. Une déclaration étonnante, Rémi Barré.
Exactement, c'était lors de la première audience générale de l'année au Vatican où le pape s'exprime généralement sur différents sujets. Là, c'était devant des pèlerins, voulant mettre en avant cette fois les valeurs familiales. Le souverain pontife a donc affirmé qu'aujourd'hui, on constate une forme d'égoïsme. On voit que certains ne veulent pas avoir d'enfants. Parfois, ils en ont un et c'est tout. Mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. Cela peut faire rire, mais c'est une réalité. Voilà ce que dit le pape. Or, selon lui, cela revient à renier la paternité et la maternité et nous diminue, nous enlève notre humanité. Il va très loin, hein, les Français. En tout cas, certains d'entre eux pourrait se sentir particulièrement visé par ces propos. J'en ai deux en face de moi. Notre pays est en effet l'un de ceux qui compte le plus grand nombre d'animaux de compagnie en Europe. 80 millions d'individus au total, dont 14 millions de chats et 8 millions de chiens. Près d'un foyer sur deux possède un animal familier aujourd'hui en France. Avec parfois un amour inconsidéré, selon un sondage...
Qui confine à la bêtise, Rémi, tu peux y aller franchement.
Non, on ne peut pas dire ça, Daniel.
Selon un sondage réalisé en 2020 par le site Whoopet, un site spécialisé dans les animaux. Bon, c'est un sondage en ligne, hein, mais quand même, deux tiers des personnes interrogées déclaraient que leur animal de compagnie était leur principale source d'amour au quotidien. quotidien, loin devant le conjoint qui arrive à 13%, leur famille à 19% ou encore leurs amis à 2%.
Alors, je ne veux pas schématiser, mais nous avons deux côtés hein, là dans cette émission. Il y a le côté droit avec des gens qui ont des enfants et pas d'animaux, c'est-à-dire Daniel, Rémi et moi, et le côté gauche avec des gens qui ont des chats et pas d'enfants. Voilà. Bah, écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est... Je vais commencer avec vous, Pierre Rondeau. Est-ce que les animaux quand même prennent trop de place dans nos vies? Vous, par exemple, vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez un chat.
J'ai un chat et j'ai pas d'enfants.
Ça s'appelle comment?
So. Mais j'ai pas envie, si vous voulez.
Comme il est branché en plus le nom. Le nom de l'animal.
C'était Brooklyn.
Méga
ou
so. Bobo.
C'est mieux que canard et soupline.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un enfant, c'est un chat.
Bah, t'aurais dû l'appeler Marais aussi.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai pas envie de polémiquer ou de débattre sur la phrase du pape, du pape François.
Bah, c'est un peu
en
le
fait,
principe oui, du débat.
Oui, soit, mais en fait. Ça me dérange pas de porter un amour qui confine à la bêtise à mon chat. J'ai pas d'enfant, j'ai un chat, mais pour autant, je peux avoir des relations de couple, des relations charnelles. Je peux espérer aussi peut-être avoir des enfants plus tard. Peu importe.
Oui, ce n'est pas un frein.
C'est pas un frein, si vous voulez.
C'est
pas un
tu veux dire, c'est une période transitoire
c'est
de ta vie.
C'est pas une période transitoire. Moi, avoir un chat et le chat que j'ai me procure beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup mon chat, c'est
procure
vrai.
Procure du plaisir.
Non, mais du plaisir, mais tout de suite, des sous-entendus.
Ah non, il y a aucun sous-entendu. Si j'aurais à savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes une boulette de papier, non, mais, ça ramène.
Il y a une relation. Il y a une relation qui ne regarde que moi. Je fais pas l'apologie. Je fais pas vraiment le prosélytisme de l'amour que je vois à mon chat. Je respecte tout autant les gens qui ont des enfants qui n'ont pas d'animaux, et je cherche pas à leur dire ah il faut que vous preniez un chat ou un chien. J'aime mon chat, mais j'aime tout autant les gens qui ont des enfants. Et je suis pas opposé seul avec des chiens et des chats ou en famille. C'est juste le plaisir qu'on peut avoir entre un enfant ou un animal.
Mais alors par exemple, imaginez on est en couple ensemble, Pierre Rondeau. Moi je suis allergique aux poils de chat. Par exemple, si vous si et est-ce que vous dites bah écoutez tant pis pour toi parce que moi c'est vraiment mon chat. Ou est-ce que vous...
Bah, je voudrais l'inciter à...
D'abord, si je suis allergique et qu'on est en
mode... Tu rigoles ou quoi? Le chat, il l'a déjà adopté? Et s'il a un enfant allergique à...
Est-ce qu'il est très amoureux?
Alors, tout va dépendre justement de la portée de l'amour que je vous porte.
S'il te plaît, Pierre, ne te laisse pas faire.
Tout va dépendre de l'amour que je vous porte. Là, aujourd'hui, vous me posez la question comme ça. Je vous apprécie beaucoup, Estelle. De la vous dire que je vous aime.
Projette-toi.
Aujourd'hui, si on me pose la question à l'instant T, mon chat et vous, je vous apprécie énormément. Mais je prendrai mon chat. Parce que je l'aime.
Mais vous ne reviendrez pas la semaine prochaine.
De toute manière, même si tu l'aimes, tu ne vas pas abandonner le chat.
Je me poserai bien évidemment la question parce que je ne suis pas en train de t'opposer.
Je suis allergique à tout.
Je suis pas prêt de revenir.
Oui, mais si jamais la femme dont tu tombes amoureux est allergique, bah,
si une femme tombe amoureuse de moi, elle tombera aussi amoureuse de l'amour que je porte à mes chats.
Oh, c'est joli.
Alors, oui, mais si il y a une allergie.
Mais écoutez, Daniel, alors je voulais enchaîner par Fatima, mais je vais enchaîner avec vous.
Non, allez-y, je ne veux pas de conflit avec Fatima. Donnez-lui la parole.
Non, c'est justement. En fait, moi, j'aimerais comprendre, Daniel, parce que vous n'avez pas d'animaux et vous n'aimez pas ça. Moi, j'ai pas un amour immodéré.
J'en avais un quand j'étais petit, de chat.
Ah, et ça s'est mal passé?
Non, super, c'était formidable. Entre 10 ans et 18 ans, c'est génial. Bah, il est arrivé par hasard, on l'a trouvé dans le jardin, on l'a pris.
Ah,
après, c'était très chouette, hein, mais bon, après, il était malade, il fallait se soigner, ça faisait de la peine. Après, quand il est mort, on a été triste. J'aime bien dans les maisons, les chiens, dans l'espace et tout ça. C'est généralement en ville, je trouve que ça confine au ridicule qu'on soit complètement baba de son animal. Ah, je vais descendre avec lui. Ah, je vais fumer ma clope et il va aller pisser dehors. Ah, super. C'est l'activité avec le chien, quoi. Ou avec le chat à la maison.
Il y a des chats d'appartement,
d'utilité, il y a rien. Si tu vas faire quoi avec le chien, il va regarder la télé avec toi. Il y a un dialogue. Je vois un amour à mon animal. Ah, super. Chats, basé sur quoi en fait?
Il y a des gens qui font pas plus avec leurs enfants, vous savez.
Oui, mais justement, c'est ça qui est grave. Et dans ce que dit le pape, c'est ça en fait. C'est parce qu'il y en a qui doivent penser que c'est plus facile d'avoir un animal que d'avoir un enfant, parce qu'ils n'arrivent pas à l'éduquer, ils n'arrivent pas.
Ce qui factuellement n'est pas faux.
Oui, c'est plus dur d'avoir d'élever un enfant, oui.
D'avoir d'éduquer, ou
d'élever bah, les deux, enfin, je sais pas, visiblement, ça a l'air d'être compliqué d'élever, quoi. Bon, bref. Voilà, pour moi, l'animal me ramène à la nature, donc je le conçois dans la nature. En ville, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais l'animal en ville. C'est pour moi, c'est aberrant, c'est une contradiction.
Fatima, est-ce que, finalement, vous pensez, vous avez deux chats, que les chats peuvent remplacer un enfant? En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont des animaux de compagnie. On voit énormément de vidéos de chats trop mignons, par exemple, sur Internet, etc. Est-ce que c'est aussi une manière de se sentir moins seul et de remplacer quelque part quelque chose?
En tout cas, je le considère comme quelqu'un qui est sous ma responsabilité. Je l'ai adopté, je vais pas l'abandonner ou le jeter ou le prendre comme un gadget, ça c'est sûr. Pour moi, quand on adopte un chat, on en prend pour 10 ou 15 ans et on a une obligation de soins envers lui, d'amour, effectivement, de lui apporter tout ce dont il a besoin. Moi, je trouve ça vraiment regrettable que le pape, il ait voulu illustrer sa punchline nataliste, on va dire, avec ça, parce que moi, par exemple, je suis sans enfant, je ne pense pas du tout être quelqu'un d'égoïste, je donne beaucoup de mon temps bénévolement aux autres, et c'est quelque chose qui m'a éduquée à ça. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, la première cause que j'ai embrassée, c'était de soigner les animaux qui étaient abandonnés à Rabat, donc ma ville natale, et ça m'a sensibilisée plus globalement à l'empathie, à l'humanité, parce que ce qui me touchait, c'est que c'était des sans-voix, et que ça me tenait à cœur de sauver et de soigner des êtres sentients, vivants, qui étaient sans voix. Et je ne pense pas qu'on donne trop de place aux animaux. Certains animaux sont domestiqués depuis des siècles, ils accompagnent l'humain depuis très très longtemps, les chevaux, les chiens, les chats, etc. On sait que ça a un vrai apport.
Ils avaient une utilité.
Ça a même un apport humain, c'est-à-dire que...
d'amener de l'amour, en fait.
Les chevaux, il y a une différence entre les animaux qui étaient utiles.
Il y a assez peu de chevaux.
Et les chiens, c'était un truc des nobles. Les ouvriers, tout ça, on n'avait pas d'animaux de compagnie. C'était un truc de noble puis de bourgeois.
Oui, ce n'est pas qu'un apport utilitaire. C'est-à-dire que, par exemple, dans les milieux du handicap où je travaillais, la question de la médiation animale est très, très importante. On sait que ça apporte des vrais soins, du vrai bien à l'autre. Je pense vraiment que sans les animaux, le monde ne serait pas humain, en fait. Et qu'on a besoin de ces multiples interactions et de cette altérité complètement radicale.
Et vos chats, vous les avez torturés, du coup?
De quoi?
Pourquoi?
Bah, vous les avez torturés. Pourquoi? C'est un chat ou une chatte que tu as?
C'est une chatte.
Pourquoi je les ai torturés?
Donc tu l'as stérilisé.
Ah ben, non seulement c'est pas une torture, mais c'est extrêmement important. La plupart des animaux meurent du fait, l'espérance de vie, par exemple, d'un chat est moindre quand il n'est pas stérilisé. En fait, le fait de ne pas les stériliser, ça apporte des cancers.
Vous lui avez coupé la nature, le chat, quand il faut faire de la castration.
Non,
un chat à la maison, faut le castrer.
Oui, effectivement, les chats sont castrés, et c'est ce qui fait qu'ils ne se battent pas dehors.
Bah oui, mais donc.
C'est ce qui fait qu'ils ne se battent pas dehors. C'est très. Alors, n'écoutez pas Daniel, s'il vous plaît. Allez castrer, stériliser vos animaux.
Sur les animaux,
c'est de la bien-traitance en véreux, ça augmente leur santé et ça empêche qu'ils chopent plein de maladies ou qu'ils aillent se battre, etc. Alors, et justement, je comprends vraiment pas que le pape dise que ça diminue en humanité, parce que je pense vraiment que ça augmente en humanité, en sentiment humain. En général, de s'occuper des personnes qui sont les plus démunies et qui sont les plus vulnérable.
Alors en tout cas, on a énormément de témoignages qui vont dans votre sens. Fatima, beaucoup de témoignages d'auditeurs et d'auditrices qui ont des animaux et qui leur portent un énorme amour. On a David notamment qui nous appelle de Béziers. Bonjour David.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour Estelle.
Eh ben merci d'être avec nous sur RMC. David, est-ce que vous êtes d'accord avec le pape, c'est-à-dire quand il dit que les animaux de compagnie remplacent les enfants en quelque sorte?
Est-ce qu'il remplace ses enfants? En tout cas, moi, le mien, c'est pas qu'il le remplace, c'est que c'est mon enfant. Donc, je pense que ça résume bien ma pensée.
Et vous avez quoi comme animal?
J'ai un petit bulldog français qui s'appelle Dougie.
D'accord. Voilà.
Et aussi vrai qu'il a changé toute ma vie, c'est qu'aujourd'hui, j'ai même monté la première agence immobilière solidaire à la cause animale à Béziers.
Une agence immobilière solidaire à la cause animale, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, on reverse 7% de notre chiffre d'affaires annuel pour la cause animale et les associations qui s'occupent d'animaux.
Ah bah écoutez, super David, mais alors en quoi votre chien a changé votre vie?
Il m'a appris d'abord à être meilleur, parce que comme je dis tout le temps, ils nous apprennent à aimer, ce qu'on sait rarement faire. Et une fois qu'on a un toutou avec nous, ça change totalement notre vision du monde. Ils demandent rien et c'est que vous rentrez à la maison, si vous êtes en dépression, si vous êtes content, ils sont toujours là. Voilà, c'est vraiment fantastique, ça change toute une vie.
Et c'est vrai qu'on s'engueule assez peu avec un animal, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas à lui demander d'aller faire ses devoirs par rapport à un enfant, on n'a pas à l'habiller.
Non, mais crois-moi qu'ils ont leur caractère. Ouais, j'ai des chats qui sont très, très différents. Un qui est très timide, très renfermé, l'autre qui est très, très dynamique. Et quand on apprend à vivre avec des chats, à les observer, etc., c'est pas vrai que ce sont des duplications, quoi que ce soit. Ouais. Ils ont leur caractère et voilà.
Ouais. Juste, je voudrais qu'on entende Clara, qui a 20 ans, Clara, et qui nous appelle du Finistère. Bonjour, Clara.
Bonjour.
Et Clara, vous avez un chat.
Oui, j'ai un chat. Moi, j'ai plusieurs animaux, mais j'ai plus un chat avec moi.
D'accord. Et il vous apporte quoi, ce chat?
Du bonheur. Mais c'est tout le temps avec moi. Après, moi, j'ai un problème, enfin, mon chat a un petit problème. Je sais qu'elle est trisomique et qu'elle fait des crises d'épilepsie. Donc, je la considère vraiment comme ma fille. Elle est vraiment avec moi à tout moment. Dès que je me balade dans la rue, elle est avec moi. Elle a sa petite laisse, même quand je vais au magasin ou même chez le médecin.
Vous baladez avec votre chat? En laisse?
Oui, tout à fait. Oui.
Mais j'ai vu ça.
Ah bon? Mais parce que là, on disait justement que chaque animal avait sa spécificité, mais c'est vrai que le chat, enfin, on en voit assez peu en laisse quand même.
C'est mieux d'avoir un harnais, effectivement.
Oui.
Il y a des endroits où on peut, dans Paris, sortir son chien sans laisse. Il y a des espèces de parcs, je pense notamment au Jardin de Luxembourg, où on peut aller avec son chien. Et j'ai déjà
ça, c'est bien ça. Jardin de Luxembourg sans laisse, balader un chien, ça, c'est bien ça.
Il y a ça.
Et alors que toi, t'es avec ton enfant, que ça trouve, il a peur et tout, et qu'il est effrayé quand le chien vient vers lui, et que t'as le maître qui arrive et le maître, il arrive. Ne vous inquiétez pas, il ne mord pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il mord pas?
C'est des zones avec des grillages.
Si ça fait peur. Mais non, mais il y en a plein dans la rue qui se baladent avec leur chien et qui sont les rois du monde. Oui, vous inquiétez pas, il mord pas, il est gentil. Mais on s'en fout qu'il soit gentil. Si mon enfant a peur.
Chercher simplement. C'est ce qui compte. Voilà, je témoignais simplement.
Et puis t'as peut-être pas envie d'être léché par un chien dans la rue aussi.
Donc il arrive. Il y a pas un chien qui te laisse.
Mais si, il arrive, il se frotte sur toi, c'est sale. J'ai pas envie qu'il se frotte sur
jamais.
Moi.
Mais qui fait ça?
Ah, ça t'arrive jamais quand dans la rue tu croises un mec avec le chien qui est pas en laisse, le chien vient vers toi.
Déjà,
t'as pas envie qu'il vienne vers toi, le chien. Pourquoi accepter que le chien vienne vers toi?
Tu penses sur toi que c'est arrivé? Pose-toi des questions.
Non, mais sans déconner, ça arrive pas. Vous êtes sérieux?
Là, on s'égare.
Vous êtes sérieux? Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas.
Daniel, on s'égare.
Avec des grillages.
On peut sortir son chien. Moi, je te parle de dans la rue, ça arrive.
Et très fréquemment. Au Jardin de Luxembourg, il y a ça, et à Paris, donc, et j'ai déjà vu des gens sortir en laisse avec leur chat. Voilà, c'était juste l'anecdote de là, Daniel.
Oui, parce que là on était avec Clara. Clara, vous avez 20 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous vous dites quand même, voilà, j'ai mon chat, je l'aime énormément, ce que vous nous avez dit, il vous apporte énormément de bonheur, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec un désir d'enfant. C'est-à-dire que vous pourriez quand même avoir des enfants plus tard.
Ah oui, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc ça ne remplace pas un enfant pour vous?
Non, ça, enfin, oui et non, quoi. Ça ne remplace pas un enfant, parce qu'un enfant, ça reste quand même ton enfant, et il vient de toi, alors qu'un animal, tu n'es pas la maman. Mais moi, j'aimerais autant mon enfant comme j'aime mes animaux.
Ah oui, quand même.
Alors, Pierre?
Oui, non, mais c'est pour ça que finalement, la phrase du pape François, moi, je la trouvais pas paradoxale, mais bizarre, c'est qu'à aucun moment, en tout cas, l'immense majorité, je pense, des propriétaires d'animaux, ont substitué leur enfant à un animal. Oui. On peut avoir des animaux et tout autant avoir ou vouloir des enfants. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a vraiment un remplacement.
Dire qu'on les aime autant, par an.
Non, mais.
On aime différemment.
On aime différemment. Là, tu sais, Daniel, je peux témoigner, moi qui n'ai pas d'enfant, je ne peux pas savoir quel est l'amour que j'ai porté à des enfants que je n'ai pas.
Normalement, mais, l'amour de bien l'enfant
évidemment,
sera plus
voilà, bien évidemment qu'il sera plus fort. Aujourd'hui, je vois un amour inconsidéré qui peut conférer à la folie, comme tu as dit, ou à la bêtise. En tout cas, j'aime mon chat, mais le jour où j'aurai des enfants, je les aimerai bien plus, très certainement. Simplement, il n'y a pas d'opposition. J'ai des animaux que j'aime et j'aurai des enfants que j'aimerai beaucoup plus. Il n'y a pas d'opposition.
De toute façon, on sacralise toujours ce discours sur l'amour. Je pense même que c'est un grand tabou pour certains parents, par exemple, même certaines mères, de dire qu'elles aiment un enfant plus que l'autre. Et puis moi, des années plus tard, j'ai pu en reparler avec ma mère. Elle m'a dit, c'est vrai que j'ai très mal vécu ta grossesse et que je t'en ai voulu à un moment, etc. Il n'y a pas à projeter de la honte parce qu'on ressent de l'amour, de l'affection, de l'effusion.
Je suis très
inquiète quand mes chats sont malades. Je suis capable d'essayer de trouver le dernier veto ouvert. Et oui, ça apporte du bonheur. Tu as même témoigné un jour toi-même quand tu m'as vu venir avec mon chat puisque mon autre chat était malade.
Il était mignon.
Et qu'est-ce que j'étais heureuse. Tu m'as dit, j'ai jamais vu Fatima resplendir autant. Et il n'y a aucune honte et aucune stigmatisation à apporter, tout simplement le fruit de l'interaction qu'on a avec des autres êtres, quels qu'ils soient.
Ben voilà, on entend quand même énormément d'amour. D'ailleurs, tous les témoignages qu'on a eus sont des gens qui ont envie.
C'est de l'amour de remplacement, la plupart du temps. Les animaux ont remplacé, ont guéri des drames humains.
Mais tu fais même ça entre humains. Et t'arrives de projeter de l'amour sur un être pour en oublier un autre.
Moi, je pense que souvent, c'est qu'on va pas très bien.
C'est pas mignon.
Mais on peut être très heureux avec un chien, en fait.
Et qu'il manque quelque chose dans sa vie.
Mais non, Daniel.
Mais pas du tout.
Tu peux aimer tout autant une personne que tu peux aimer un chat ou un chien. Il n'y a pas d'opposition.
C'est déjà à la base quelque chose de pas normal.
Mais non, simplement. C'est de dire que tu peux aimer quelqu'un et c'est parfaitement normal, tes enfants, ta femme, ton mari, peu importe, et aimer ton chien ou ton chat. On n'est pas en train de hiérarchiser l'amour.
De mon point de vue, ça ne peut pas être sur un pied d'égalité.
On a fait un sondage sur notre compte Twitter @estellemidi. Les animaux prennent-ils trop de place dans notre vie?
Non à 60%.
Voilà. Donc là, pour le coup, c'est plutôt proche de Pierre Rondeau et de Fatima.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.